Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Et oui, il faut s'habituer. En ce mardi 15 novembre, c'est officiel selon les Nations Unies. Nous sommes désormais 8 milliards sur Terre. Suite donc de notre semaine spéciale qui interroge la démographie mondiale. Hier, nous posions la question, sommes-nous trop nombreux pour vivre en sécurité ? Aujourd'hui, avec 8 milliards de voisins et 1 milliard de mal logés, sommes-nous trop nombreux pour vivre dans un habitat décent ? Le logement fait partie des droits humains fondamentaux, mais près de 733 millions de personnes vivent privées d'électricité, dont 570 millions en Afrique subsaharienne, selon la Banque mondiale. On parlera donc de l'accès à l'énergie, parce qu'à l'occasion de la COP27, RFI propose aujourd'hui une journée spéciale sur ce sujet, sur la sobriété énergétique. Plus de 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable et plus largement, il faut parler de l'accès à l'assainissement, aux toilettes. Comment garantir à tous un toit décent ? Faut-il détruire ou réhabiliter les quartiers précaires ? Faut-il déguerpir les familles installées dans des zones dangereuses ou insalubres ? Comment acheminer les services essentiels aussi dans des villes non planifiées ? Et surtout, quelles innovations pour construire vite, mieux et moins cher que des constructions classiques en béton, en ciment ? Évidemment, toutes ces questions sont à la fois techniques, politique et économique. Et on va en discuter avec vous, Sylvain Joachim, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct chez 8 milliards de voisins. Vous appartenez à la division urbaine de l'AFD, l'Agence française de développement, qui finance, qui accompagne des programmes dans près de 115 pays. Nous sommes également en liaison avec Thierry Pacaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Thierry Pacaud. Vous êtes philosophe de l'urbain. Vous avez publié « Mesures et démesures des villes » aux éditions du CNRS. C'est les bidonvilles aussi aux éditions La Découverte. Nous sommes aussi en ligne avec l'ONU Habitat. Frédéric Salier, bonjour.
Bonjour.
Vous nous détaillerez le programme des Nations Unies pour un habitat plus décent. Et puis surtout, vous allez nous dire ce qu'est un habitat décent aux yeux des Nations Unies. Victor Moria, notre correspondant de RFI au Maroc, nous parlera tout à l'heure des programmes de logements sociaux au point mort, mais qui sont désormais confrontés à l'inflation des prix de la construction au Maroc. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous avez le sentiment d'habiter dans un quartier surpeuplé, qui manque de tout, appelez-nous. Ou bien peut-être si vous avez déménagé pour un meilleur logement. Racontez-nous aussi ce que vous constatez autour de vous. Notre numéro de WhatsApp, c'est toujours le même, 33 7 64 45 51 41. Écoutez cette voisine.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
8 milliards de voisins, on est ensemble. 8 milliards de personnes, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait plus de déchets. Est-ce que la planète pourra ? Est-ce qu'on pourra s'en sortir ? Et déjà, même chez nous, ici, on voit que la ville d'Abidjan, déjà, ne suffit plus pour tout le monde. Donc, ça me fait peur un peu à l'extérieur aussi.
Oui, je voulais vous faire part de la situation de mon pays, au Tchad. La moitié de la population vit dans une situation vraiment précaire, voire invivable. Plus de 70% des habitants mènent une vie de misère. Dans la province du lac Tchad, ils n'ont pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. En Djamena même, il n'y a pas d'électricité, combien de fois en province, n'en parlons même pas. Les femmes sont obligées d'aller au puits. Les maisons sont construites en paille ou en banco, ce n'est pas solide. Les conditions de vie sont vraiment difficiles. Je vous remercie.
Merci Armat pour votre message et bien sûr vous pouvez continuer de nous téléphoner. Sommes-nous trop nombreux pour un habitat décent, 8 milliards d'habitants aujourd'hui, quel lapsus incroyable, parce qu'évidemment on va parler aussi du financement de cet habitat. Merci en tout cas Armat pour votre message et vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Qu'est-ce qu'un habitat décent, Frédéric Salier ? La définition officielle de l'habitat décent pour les Nations Unies ?
Officielle, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition universelle de ce qu'est un habitat décent, puisqu'en fait, ça varie très fort en fonction du contexte culturel. Alors, Il y a un seuil minimal au-delà, en dessous duquel tout le monde s'accorde pour dire que l'habitat est indécent, qu'il est inadéquat, mais c'est assez difficile de définir ce qui est décent. On peut quand même énoncer quelques, il y a quand même quelques principes généraux, disons quelques critères, mais qui vont donc être interprétés en fonction du contexte culturel, qui sont premièrement la sécurité de l'occupation. Il faut que l'habitant ait la garantie de pouvoir occuper les lieux, continuer à disposer du logement dans le temps, donc il y a une forme de protection juridique. La sécurité physique, ce qu'on appelle l'habitabilité, donc la garantie que le logement résiste aux intempéries, qu'il protège contre le froid, le chaud, le vent, la pluie, qu'il ne menace pas de s'effondrer, etc. L'accès aux services de base, eau, assainissement, énergie, j'imagine qu'on va pouvoir dire bientôt aussi les réseaux digitaux, mais aussi les espaces publics, les transports, la dimension du logement en fonction du nombre d'occupants ou de personnes qui constituent le foyer, l'emplacement, puisque l'emplacement détermine en grande partie les possibilités d'emploi, l'accès aux soins de santé, l'éducation, le coût. Un logement adéquat ou un logement décent, c'est un logement qui est abordable aussi sur le plan financier.
Par rapport à ses revenus,
de la personne.
C'est ça.
Par rapport aux revenus de la personne, oui, tout à fait. Et finalement, un respect du contexte culturel. Donc un logement adéquat, c'est aussi un logement qui correspond, on va dire, à l'identité, au contexte culturel, à l'identité culturelle de ses habitants. Donc c'est vrai qu'on a une question difficile puisque au niveau mondial, on a, et c'est une chance, une grande diversité culturelle, mais ça veut aussi dire que ce qui est considéré comme décent d'un côté de la planète peut être considéré différemment d'un autre côté de la planète.
Sylvain Joachim, est-ce que vous voulez compléter cette définition très générale ?
Alors effectivement, on n'a pas de définition de l'habitat décent à l'AFD. On va avoir un regard plus sur les quartiers, sur les territoires. On mène une politique d'appui à la politique publique sur le logement, essayer d'avoir des logements abordables. Mais on essaye aussi, et en complément de ce qu'a dit Frédéric, d'intervenir beaucoup sur les quartiers précaires et d'apporter des services aux habitants et donc d'appuyer les ministères, d'appuyer les collectivités locales à apporter les services essentiels aux populations. Donc on voit qu'on a un regard micro le logement, mais qu'on a aussi besoin de regarder à une échelle beaucoup plus large.
Autour du logement.
Autour
Par
du
exemple,
logement.
Services de santé,
Exactement.
Des écoles, des soins de santé autour de l'habitation et pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de l'habitation. C'est ce
Tout
que
à
vous
fait.
Voulez dire. Thierry Pacaud, qu'est-ce qu'un logement décent pour vous en tant que philosophe de l'urbain ?
Tout a déjà été dit très bien par mes deux collègues, mais il faut bien avoir en tête, pour philosophiquement parlant, si on veut faire les grands mots, un logement, c'est un logement. C'est-à-dire que le fait de le qualifier ici de social, là de digne ou là de décent, me gêne un peu. L'habitation de tout humain est à la fois un abri par rapport à toutes les intempéries, à toutes les attaques extérieures, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est avant tout ce qui permet à chacun de faire corps avec le monde, avec la Terre. C'est son rapport à la Terre. Donc on n'a pas mentionné l'importance de la nature, de l'arbre, de la végétation, mais je crois que ça c'est absolument décisif. Je reviens du Maroc où j'ai revu deux anciens bidonvilles que j'avais visités il y a 15 ans, et j'ai été sidéré de voir à quel point ils étaient minéraux. Et cette minéralité-là va être un handicap pour habiter.
Et pas de verdure, et évidemment avec le réchauffement climatique, c'est un sujet qu'on abordera. Frédéric Salier, dans un monde aujourd'hui majoritairement urbain, dans le monde bidonville, il y a bien le mot ville. Alors est-ce que le fait d'habiter en ville a vraiment dégradé les conditions d'habitation pour les plus pauvres, ou pas forcément ?
Alors, pas forcément. Habiter en ville, si les villes existent, si les villes continuent de croître, c'est aussi parce qu'il y a des avantages à habiter en ville. C'est l'attractivité de la ville montre bien qu'il y a des avantages. Alors, le fait d'habiter, le fait de s'urbaniser, une population qui s'urbanise, une population qui globalement aussi va avoir accès à plus d'opportunités en termes de développement économique, à plus d'opportunités d'émancipation sociale. Et donc, il n'y a pas vraiment de lien immédiat entre urbanisation et pauvreté. Il est vrai que dans les villes, le problème de la pauvreté se manifeste de manière très aiguë. Et dramatique. Et donc là, il y a effectivement une question importante. Disons, si on prend une échelle un petit peu plus macro, globalement, le processus d'urbanisation correspond plutôt à un processus d'accès au développement et au processus d'industrialisation.
Oui, ça veut dire qu'on peut trouver du logement indécent aussi bien dans des mégalopoles comme Kinshasa, Lagos, ou dans des villages du Sahel qui sont coupés de tout, ou encore dans des zones inondables du sous-continent indien finalement, hein.
Alors voilà, alors on peut effectivement se poser la question de la notion de décence, disons, dans les différents contextes, va être abordée un peu différemment, mais c'est vrai qu'en ville, et donc spécifiquement ce qu'on appelle le bidonville, ça a plein d'autres noms en fonction des pays, ça correspond aujourd'hui, c'est la réalité aujourd'hui de plus d'un milliard de personnes sur la Terre. Et c'est une situation de pauvreté assez extrême. Donc là, on a effectivement une concentration de difficultés qui sont difficiles à aborder.
Vous restez avec nous. On écoute un voisin qui nous appelle, qui a posté sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
Bonjour, c'est Matasiobou. Je vous appelle depuis Kinshasa. Les chefs coutumiers vendent des parcelles n'importe où, même dans des cimetières, sur des tombeaux, même dans des endroits où on ne peut pas construire. Donc, les gens construisent même dans des cimetières sans eau, sans électricité, ni canalisation des eaux. C'est la population qui souffre dans tout ça. C'est la cause même des érosions qui frappent Kinshasa actuellement. Actuellement, s'il pleut à Kinshasa, donc on ne peut pas se promener. Il y a des eaux partout, les caniveaux sont bouchés, il n'y a plus de canalisation. Donc, c'est ça, c'est vraiment les constructions anarchiques qui sont à la base de tout ça.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, désormais le chiffre est officiel aujourd'hui selon les Nations Unies. 1 milliard au moins de mal logés, vous nous le rappeliez Frédéric Salier, de l'ONU Habitat. Sylvain Joachim, on entendait le témoignage de ce voisin à Kinshasa, qui est une ville particulièrement peu planifiée, hein, près de 20 millions d'habitants à peu près, où effectivement les conditions d'habitabilité, hein, et l'habitat indécent est particulièrement aigu.
Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'on peut parler de Kinshasa, puisqu'on travaille, je travaille particulièrement sur l'agglomération de Kinshasa. On a effectivement une problématique majeure où les gens s'installent en périphérie de la ville pour essayer d'accéder à l'emploi, et donc s'installent dans les interstices urbaines, dans les endroits où il y a de la place. Et ces endroits où il y a de la place, c'est souvent dans des zones inondables. En bordure, par exemple, de la rivière Njili, la rivière qui se jette dans le fleuve Congo, on a effectivement tout cet habitat précaire qui se développe, avec un risque très fort pour les populations d'être sujet aux inondations, et ces problèmes sont souvent aggravés par une mauvaise gestion des déchets. Donc on essaye d'intervenir dans ces quartiers et d'appuyer les autorités, d'appuyer la société civile à sortir les déchets du quartier et à limiter le risque d'inondation en intervenant justement sur la rivière Njili. Donc là, on n'intervient pas forcément sur l'habitat, on intervient vraiment sur le quartier, essayer de sécuriser la zone en lien avec la Banque mondiale qui travaille sur des communes plus en amont, qui financent des projets dans les communes plus en amont où il y a des problèmes d'érosion. Donc ces problèmes d'érosion en amont et problèmes d'inondation en aval. Et il faut effectivement travailler avec les populations des quartiers à essayer de les rendre aussi acteurs de cette action, acteurs de ces projets, pour qu'ils ne soient pas seulement bénéficiaires, mais vraiment des populations actrices au même titre que des collectivités, que des acteurs plus institutionnels.
Ouais, alors évidemment, ça pose la question des déguerpissements, hein, qui sont très fréquemment utilisés, soit pour sécuriser la zone, pour sécuriser les personnes, voire aussi pour d'autres raisons, notamment des spéculations immobilières. Aliou nous appelle de Cotonou au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Aliou.
Bonjour madame.
Aliou, vous souhaitiez nous parler de certains quartiers à Cotonou, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien cela.
On vous écoute.
Je salue d'abord vos invités. Et ici à Cotonou, au Bénin, on va avoir ce problème dans la zone méridionale. Il présente précisément à la Kouadji, c'est un quartier qui est proche de la plage, de la mer, c'est-à-dire c'est à côté de la mer du Cotonou.
En bord de mer, hein, pratiquement, hein, c'est ça, hein, Aliou.
Oui, en bord de mer, pratiquement en bord de mer. Donc, chaque fois, avec l'érosion côtière, bon, chaque fois, c'est les populations se plaignent, et finalement, l'État a dû les dégager de force. Ils ont construit des maisons, en tout cas en matière précaire, c'est-à-dire du bambou, tout ça. Bon, il n'y a pas d'hygiène. Ça va apporter des maladies, la diarrhée, le choléra. Bon, l'État finit par les guérir. À part ça, il y a encore une quartier, donc c'est quartier Agla. Agla, mon chien, je me compte dans Marie-Cageuse. Les gens vont acheter des localités, compte tenu du coût moins qu'on a eu. Ils vont acheter, ils consomment même en dû sur ces quartiers. Après, c'est la pluie, l'eau de ruissellement, qui les dégâts chaque fois, ils sont inondés. Fort, maintenant, c'est ça, c'est le problème auquel nous sommes confrontés en Afrique, surtout au Bénin.
Mais quand vous dites que les gens ont acheté des terrains qui ne coûtaient pas cher parce qu'ils sont situés sur une zone marécageuse, c'était votre deuxième exemple, les gens ont acheté avec des titres de propriété?
Ah, bien sûr, ils achètent avec des titres de propriété, puisque bon, chez le, en Afrique, plus précisément au Bénin, la terre n'appartient pas à l'État, contrairement ailleurs, bon, c'est appartient souvent aux aïeux, aux grands-parents, donc. Donc, quand cela dit que ça appartient à leurs parents, donc ils vont voir les probas à acquéreurs et vendeurs. Ils achètent les trucs. C'est un deal qui se fait comme ça.
Oui, un deal qui se fait comme ça. Reste à savoir si vraiment il y a un titre de propriété derrière, parce que Frédéric Salier nous le disait aussi, le premier critère pour un logement décent, c'est aussi un logement qui est sécurisé, qui ne risque pas de s'effondrer, etc. Vous parliez de l'érosion, mais c'est aussi un logement dont on ne risque pas d'être expulsé. Et le foncier dans certains pays est assez mouvant, pas toujours très clair. Sylvain Joachim, comment vous travaillez avec les autorités pour soit empêcher des déguerpissements, parce que là, Aliou nous parlait de cet exemple de quartier construit en bordure, de pas très loin en tout cas de la mer, et donc il y a le problème de l'érosion côtière dans cette région du Bénin. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Privilégier l'urgence, sécuriser la zone, donc vider les habitations pour reloger où? Plus loin des endroits où les gens ont leur travail. Donc ça veut dire ensuite, comment vont-ils se rendre sur le lieu où ils peuvent gagner de l'argent?
Ben, on voit effectivement que c'est un problème qui est très compliqué et il faut agir à différents niveaux. Il faut agir au niveau des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il faut aider à créer, à développer ou à renforcer une politique du logement qui est souvent insuffisante. Donc on essaye d'appuyer les institutions à ce niveau-là. Il faut aider les villes à planifier. Il faut aider les villes à planifier leur territoire. Et souvent, elles n'ont pas forcément les outils, elles n'ont pas forcément les capacités, elles n'ont pas forcément les financements. Et ensuite, de façon très opérationnelle, il faut intervenir dans les quartiers. Et dans les quartiers, tout dépend de la situation. Effectivement, quand la situation présente des risques trop importants pour la sécurité de vie des populations, effectivement, dans ce cas-là, il est mieux effectivement d'aider, accompagner le déplacement des populations. Ça peut arriver, puisque dans le cadre de programmes d'aménagement, parfois, on est dans de la réhabilitation in situ, on reconstruit dans des quartiers parce que les populations sont là et les risques sont vraiment minimisés. Mais quand le risque est trop important pour ces populations, il est effectivement important d'accompagner. On ne parle pas de déguerpissement, on parle d'accompagnement, on parle de reconstruction.
C'est l'exemple de relogement, dans ces cas-là.
De relogement, quand on peut le faire. C'est l'exemple, par exemple, en République dominicaine, on a le projet de la Barquita qui est aujourd'hui terminé, mais les populations étaient vraiment dans le lit de la rivière et là, on ne pouvait pas reconstruire, on ne pouvait que accompagner un processus de reconstruction. Construction ailleurs qui pose des problèmes de lien social, qui pose des problèmes de proximité à l'emploi, puisque si ces populations sont là aujourd'hui dans ces quartiers et à ces endroits, c'est parce qu'il y a de la place, il peut y avoir effectivement un marché, mais parce qu'elles cherchent la proximité de l'emploi économique et elles tissent des liens sociaux. Et ça, effectivement, il faut aussi le prendre en compte dans les projets.
Frédéric Salier, on voit bien aussi que les habitants sont pragmatiques et que donc, quand ils peuvent occuper un terrain de manière plus ou moins légale, voire pas légale du tout, où il n'y a pas d'adduction, d'assainissement, etc., ils se disent quand même de manière très pragmatique « Oh, mais de toute façon, les services viendront à nous, finiront par venir, puisque effectivement, la ville s'étend finalement toujours trop lentement par rapport à l'installation des habitants, Frédéric Salier ».
Alors oui, les habitants sont très pragmatiques, ils ont raison de l'être et ils choisissent en général la solution qui est la meilleure pour eux dans un contexte et dans un temps donné. Mais la ville, effectivement, continue de grandir et on voit en ce moment spécialement sur le continent africain une croissance urbaine qui est rapide, voire très rapide. Et ça veut dire qu'il faut que les autorités puissent organiser cette croissance si on veut éviter la création de bidonvilles. Donc ça demande, effectivement, comme le disait Sylvain Joachim, un travail important de planification, d'accompagnement, de gestion du foncier. Il est vraiment important que, disons, les autorités prennent la mesure de la problématique et l'anticipe. Quand on réagit par rapport à une situation donc, d'occupation, en tant qu'autorité publique, si l'autorité publique réagit par rapport à une occupation, en général, on court toujours après la charrette, alors qu'en réalité, ce qui est nécessaire, c'est d'anticiper beaucoup plus les croissances de population et la demande de logements et de services dont la ville va avoir besoin.
Sylvain Joachim, peut-être, sur cette...
Oui, peut-être deux points en complément par rapport à ce qui a été dit. On voit les populations s'installent là où elles le peuvent et ensuite elles s'organisent pour apporter les services de façon formelle ou de façon informelle. Ça peut être des repiquages sur l'eau, des repiquages sur l'électricité. Donc ces populations, elles sont quand même sachantes, elles ont quand même malgré tout une expertise sur leur territoire. Elles vivent les risques naturels, elles vivent les problématiques au quotidien. Et donc quand on intervient et qu'on finance des projets en appui aux institutions sur ces territoires-là, on comprend que la population est un peu au cœur du réacteur. On ne peut pas faire un projet sans les populations. Si les institutions n'ont pas les capacités d'intervenir, d'accompagner, parfois pas la connaissance de ces territoires, parfois un sentiment de défiance des populations vis-à-vis des autorités, parce qu'elles ne sont pas consultées, parce que aussi parfois c'est un manque de volonté, parfois c'est un manque de capacité, et donc l'habitant est vraiment un acteur à part entière de ces projets-là. Parce que c'est lui qui restera finalement à la fin des projets.
Vous restez avec nous, Sylvain Joachim, Thierry Paco. Merci à vous, Frédéric Salier de l'ONU Habitat. Dans quelques minutes, on va parler du cas du Maroc que vous évoquiez justement, Thierry Paco, avec son programme de logements sociaux qui est d'ailleurs au point mort avec l'inflation sur les matériaux de construction et l'inflation aussi des prix des terrains. Les voisins, vous avez la parole. 8 milliards de voisins, sommes-nous trop nombreux pour avoir accès à un habitat décent? Vous pouvez nous contacter au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après Suzanne et sa chanson Rageuse pour la planète. Il est où le SAV? Le SAV, c'est le service après-vente d'une planète cassée. D'ailleurs, allez voir le clip pendant qu'elle chante, parce que si vous ne le connaissez pas, il était tourné sur la décharge de Mbebus au nord de Dakar. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Cactus, c'est sur ce même cactus, depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y'a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Suzanne était Métane. Il est où le SAV? Je vous le disais, cette chanson, le clip de la chanson était tourné sur la décharge de Mbeubeus. 114 hectares de décharge à ciel ouvert, avec évidemment des habitations, des bidonvilles. D'ailleurs, petite parenthèse, Sylvain Joachim, je sais que l'AFD est un des bailleurs pour le programme de résorption des déchets qui a pris énormément de retard. C'est très compliqué d'intervenir pour le coup sur des bidonvilles qui sont reliés, qui sont perfusés par les revenus économiques d'une décharge. Et on a ça dans d'autres villes du monde.
Oui, bah, on a ça au Cap-Haïtien, par exemple, dans le nord d'Haïti, où on a une partie de la ville qui est construite dans la mangrove, en fait, où les gens vont acheter des parcelles foncières, vont remblayer la mangrove avec des déchets et vont construire directement sur les déchets. Ils vont rajouter de la terre et il y a une cession, il y a des ventes de terrain et c'est en zone c'est des zones extrêmement vulnérables hein, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental, écologique, avec des risques effectivement d'inondations très importants et des risques de
d'effondrement, tout simplement.
D'effondrement, les maisons sont déjà de travers. Et c'est assez impressionnant, effectivement. Les gens là vivent vraiment sur les déchets et ont construit la ville, une partie de la ville en tout cas, sur les déchets, résorbent la décharge comme ça, de façon totalement non planifiée.
Et les gens achètent des parcelles, mais avec des titres de propriété
Alors, il n'y a pas de titre de propriété. Là où il y a des difficultés au Cap-Haïtien, c'est que les camions poubelles qui venaient, c'était des fois des camions gérés par la mairie. Donc, c'est pas forcément la mairie en tant que telle, mais effectivement, il y avait des transactions. Il n'y avait pas forcément avec la mairie, mais avec des personnes qui s'improvisent promoteurs. Mais il y a une forme d'ingénierie qui est quand même intéressante là-dedans, où on arrive à être résilient, à construire un peu partout. Après, il y a des risques, effectivement.
Ouais. Forme d'ingénierie complètement dans l'informel, évidemment. Alors, direction le Maroc, maintenant, où le modèle de développement de logement social a longtemps été considéré comme une réussite, récompensé en 2012 par l'UNESCO. C'est un programme sur 10 ans qui a permis de reloger près de 2 millions de personnes dans des habitations neuves, le tout avec un coût accessible pour les classes sociales défavorisées. Bonjour Victor Moria.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant de RFI à Rabat et par chance vous êtes de passage dans le studio des 8 milliards de voisins sur RFI. Victor, ce programme de logement social au Maroc touche à sa fin actuellement. Quel est le bilan ?
Alors on va commencer par quelques chiffres pour mesurer l'impact de cette politique. De 2010, date à laquelle le programme a été lancé, à 2020, 600 000 logements ont été construits, majoritairement à la périphérie des grandes villes. Ces logements sont des appartements en immeuble, ils font au minimum 50 mètres carrés, les plus grands atteignent 72. Ils respectent des normes avec un cahier des charges précis, notamment en matière d'isolation et de salubrité. Et chacun a été vendu à un prix fixe de 250 000 dirhams maximum, c'est-à-dire environ 25 000 euros. Et tout cela a permis de loger, vous l'avez dit, environ 2 millions de personnes, notamment une classe sociale qui jusque-là n'avait pas les moyens d'accéder à la propriété.
Et à l'origine de ce programme, on retrouve une initiative bien sûr du roi Mohamed VI, mais surtout un partenariat public-privé entre l'État et les promoteurs immobiliers.
Oui, c'est ça, un pacte conclu entre le gouvernement de l'époque et 1300 promoteurs immobiliers marocains. Concrètement, c'est une convention avec un engagement de la part des promoteurs de construire 500 logements par promoteur et par an. En échange, l'État a exonéré de taxes les constructeurs, notamment sur les impôts sur les sociétés et sur le revenu lié à ces logements sociaux. D'un autre côté, l'État a aussi donné un coup de pouce aux acquéreurs en garantissant les prêts faits auprès des banques, donc des prêts garantis par l'État, ce qui a permis aux personnes ne disposant pas de revenus fixes, comme c'est souvent le cas au Maroc, d'acheter un appartement parce que la mensualité était de 1100 dirhams par mois pour rembourser ce prêt, pour obtenir les euros. Hein, on divise par 10 hein, en dirhams, je le rappelle. Donc 1100 dirhams, 110 euros. Sachant que le revenu minimum au Maroc est de 2800 dirhams, ces logements sont devenus accessibles pour les couples ou les familles, en tout cas les foyers à plusieurs revenus.
Donc c'est clair que ce programme d'accès à la propriété de logements sociaux s'adressait à des familles modestes, mais pas aux plus pauvres. Le programme s'est achevé en 2020, donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Trois ans après, deux ans après?
Alors pour l'instant, le programme de l'État s'est officiellement arrêté donc, il y a deux ans, mais il y a encore certaines conventions qui sont encore en cours et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un gros problème actuellement, c'est que depuis dix ans, les conditions de construction ont changé, ce ne sont plus les mêmes et c'est ce que nous raconte Aziz Benjelloun, il est le vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers et je l'ai rencontré donc la semaine dernière, mais à Rabat bien sûr.
Le prix du foncier a largement augmenté, il a été multiplié par deux. Les prix des matériaux de construction ont flambé avec les dernières inflations et la situation post-Covid. À titre d'exemple, le rond à béton est passé de 6200 dirhams la tonne à actuellement plus de 12 000 dirhams la tonne, donc il a plus que doublé. Le ciment a également connu des hausses de 20 à 25%. On ne parle pas aussi de tout ce qui est plomberie, cuivre, etc. Donc ces hausses du prix du foncier et des prix des matériaux de construction ne nous permettent plus de produire des logements sociaux à 250 000 dirhams.
Oui, une inflation qui quand même donne le vertige hein, dans ce qui est cité par ce vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Victor Moria, pour l'instant, malgré le succès du précédent programme, il n'y a plus de programme de logements sociaux en construction au Maroc à l'heure actuelle ?
Et oui, c'est ça, parce que les promoteurs estiment que les coûts de construction sont actuellement à 300 000 dirhams. Ils construisent donc à perte, puisqu'ils vendent à 250 000 dirhams. La plupart d'entre eux ont donc cessé les travaux et les demandes de nouvelles constructions ont chuté de 50%, donc de moitié. Les promoteurs réclament un nouveau deal à l'État. Selon eux, il faudrait désormais un logement vendu à 300 000 dirhams avec une aide donnée directement à l'acheteur et non au constructeur via des réductions et des baisses d'impôts, ce qui permettrait aux promoteurs donc de ne plus dépendre de l'inflation. Le projet est actuellement à l'étude. La loi de finances 2023 vient d'être votée. Elle prévoit un arrangement, mais le détail n'est pas encore connu. En fait, les négociations sont encore en cours entre les promoteurs immobiliers et l'État. Mais pourtant, il y a urgence, puisqu'au Maroc, on assiste à une migration rurale vers les villes très massive. Actuellement, on a environ 60% de la population qui vit en milieu urbain. Ça sera près de 75% en 2030. Ce sont des populations rurales, majoritairement défavorisées, qui ont le plus besoin de logements décents lors de leur arrivée dans les grandes villes. Sinon, on a le phénomène des bidonvilles dont vous parliez à l'instant.
Voilà, et qui ne feront que croître. Merci beaucoup, Victor Moria, correspondant de RFI au Maroc. Merci à vous. Ces programmes de logements sociaux sur le continent africain, alors, je ne sais pas si c'est différent sur d'autres continents, mais Sylvain Joachim, il ne s'adresse pas réellement à une réduction drastique des bidonvilles, des plus pauvres. Ça s'adresse à des populations très modestes, mais pas les populations les plus pauvres en réalité.
En tout cas, il y a peu de politiques de logement social. Hein. Les politiques publiques de logement sont assez déficientes. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'accompagner les États, les ministères, à développer une politique du logement abordable. Ce n'est pas forcément du logement social, mais du logement abordable pour les familles. Ça peut être propriétaire de son logement et pas forcément locataire. Un exemple en Centrafrique, un lotissement qui avait été construit à travers des fonds de bailleurs, des fonds marocains de mémoire. Les logements qui avaient été construits, c'était un lotissement qui était destiné à une classe moyenne légèrement supérieure, notamment pour des fonctionnaires, en tout cas qui pouvaient bénéficier de ces logements. Mais ce n'était pas les personnes les plus précaires, les plus pauvres, qui, elles, étaient dans des quartiers et toujours dans les mêmes conditions. Donc il y a la question effectivement du prix, il y a la question du statut, et il y a cet enjeu d'accompagner les politiques publiques du logement, privé mais aussi public.
Thierry Pacaud, quand on voit l'urgence du réchauffement climatique, comment améliorer des dizaines de millions de logements dans le monde ? Vous êtes toujours en ligne avec nous, Thierry Pacaud ?
Oui, absolument, je vous écoute.
Parce que là, on l'a entendu avec le programme marocain. Bon, ce sont des constructions assez classiques hein, dans la façon de faire, aussi bien sur les montages financiers, partenariats public-privé, du béton, du ciment. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, ça se heurte à l'inflation des coûts de la construction, du prix des matériaux de construction. Vers quoi faudrait-il s'orienter aujourd'hui ? Quelles sont les pistes les plus intéressantes pour construire vite parce qu'il y a cette démographie mondiale hein, qui met sous pression le logement, vite, mieux, meilleure qualité et de manière abordable en termes de prix ?
Alors là, évidemment, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que le fait que, pour l'instant, on réfléchissait exclusivement à l'intervention de l'État. C'est l'État qui doit prendre en charge ces grands programmes. Alors certes, en partenariat avec des promoteurs privés, par exemple, comme dans le cas marocain, mais ce que disait très justement à plusieurs reprises Sylvain Joachim, c'est que il faut faire avec les gens. Et donc, faisant une histoire récente du logement pour le plus grand nombre, je me suis aperçu depuis le premier Habitat 1 à Vancouver en 1976 que la notion d'autoconstruction a totalement disparu. Et elle n'est plus du tout encouragée parce qu'elle allait avec des matériaux locaux qui pouvaient être par ailleurs biosourcés. N'oublions pas qu'une tonne de béton produit une tonne de CO2. Donc je crois que c'est déraisonnable de miser sur le béton, sans compter, vous l'avez très justement dit, parler du ciment, mais c'est aussi un trafic incroyable à l'échelle planétaire de sable. Bon, et le Maroc y participe grandement. Détruire des rivages, exporter du sable de manière massive, c'est finalement saccager des écosystèmes. Donc on voit bien que tout est lié, nous sommes tous convaincus de ça. Donc moi je pense que répondre à la question du logement décent, c'est favoriser les petites et moyennes villes en les dotant de tous les services publics, et pas publics du reste, que la population attend. Il faut cesser cet exode rural massif, parce que je crois que dès que quelque chose va mal, c'est que ce quelque chose est trop gros. Et je l'ai encore vu, là, en étant à Rabat la semaine dernière, où j'ai vu une démultiplication de ces logements, mais à 10, 12, 15 kilomètres, et les transports en commun ne suivent pas. Et il faut bien savoir que si on un petit bidonville au centre-ville permettait à une population de survivre, parce que leur emploi était là, et puis tout à coup, d'un point de vue tout à fait compréhensible, on va mieux vous loger ailleurs, oui. Mais cet ailleurs est tellement loin que ça met au chômage technique, j'allais dire, cette population.
Et certains peuvent passer trois heures dans les transports,
voilà, oui,
puis notamment des transports émetteurs de gaz à effet de serre, etc. etc. Effectivement, quand vous faites l'éloge de l'autoconstruction, ça a aussi été, alors vous dites des maisons construites avec des matériaux locaux. Mais il y a bien longtemps qu'on ne trouve plus beaucoup de matériaux locaux dans l'autoconstruction, qu'on trouve surtout des parpaings de ciment. C'est la première chose que fait une famille quand elle peut un peu économiser, c'est de payer un maçon et de lui donner de l'argent pour qu'il aille chercher des parpaings de ciment. Donc aujourd'hui, vous faites l'éloge de l'autoconstruction, mais l'autoconstruction, ça a aussi été l'anarchie parfois dans les quartiers.
Oui, mais alors bon, là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, de refaire toute cette histoire, mais... Précisément là au Maroc, d'où je reviens, j'ai vu avec des étudiants de l'école d'architecture de Rabat des maisons vraiment en autoconstruction en terre. Alors vous avez raison, il y avait un savoir-faire qui s'est perdu, il faut le redécouvrir et montrer à quel point ce matériau n'est pas un matériau pauvre, dévalorisant, mais au contraire un matériau qu'on peut moderniser en y introduisant de nouvelles qualités constructives. Et pour moi, c'est une des solutions.
Sylvain Joachim, sur l'autoconstruction, sur les matériaux de construction, quelles sont les pistes à considérer aujourd'hui ? Thierry Paco nous parlait des matériaux en terre. On a déjà abordé d'ailleurs cette question lors d'une émission précédente à Dakar. Et on voit bien que ces matériaux sont très mal connus et sûrement pas connus des familles les plus modestes qui en auraient besoin, parce que c'est vrai que ça coûte moins cher que de construire en ciment et en béton d'ailleurs. Mais on n'a pas accès à l'information, on n'a pas accès à des personnes formées pour construire de cette façon. Là.
Oui, je veux bien effectivement donner un exemple. Hein. On est intervenu en Haïti après le tremblement de terre entre 2010 et 2020. Les programmes sont en train de se terminer dans des quartiers de Port-au-Prince, hein, les quartiers de Martissant et de Bayorjo. C'est environ 50 000 habitants, donc c'est une ville de taille moyenne. Et effectivement, après le tremblement de terre, on s'est heurté à la problématique de la reconstruction. Un an après le tremblement de terre, 90% de la reconstruction n'était pas le fait des fonds des bailleurs ou des ONG, mais c'était vraiment les Haïtiens qui reconstruisaient eux-mêmes. Mais reconstruisaient de la même façon, avec les mêmes pratiques constructives. C'était pas forcément de l'autoconstruction, ça pouvait être de l'autoconstruction ou de l'autopromotion, c'est-à-dire qu'ils faisaient appel effectivement à des boss maçons du quartier. Et donc l'idée était de se dire, il y a des dynamiques, accompagnons-les, mais faisons en sorte que les gens reconstruisent de la bonne façon, avec le bon matériau. Ça peut être du parpaing, des blocs, mais des blocs de bonne qualité. Et donc, il y avait tout un travail d'accompagnement au niveau des ministères sur les pratiques constructives. Il fallait les redescendre dans les quartiers. Et donc, il y avait un accompagnement technique, financier, administratif pour que ces personnes puissent avoir un permis de construire, puissent avoir une reconstruction qui soit paracyclonique et parasismique, et un accompagnement finalement financier avec une subvention donnée aux familles et avec du renforcement de capacité des boss maçons, des acteurs. Et donc ça a permis de reconstruire près de 350 logements dans ces quartiers, de réhabiliter plus de 150 logements sur 10 ans. Donc il y a la question de temporalité. Après une crise, après une catastrophe, on veut faire vite, mais il y a aussi la difficulté de faire. Et effectivement, c'est bien d'accompagner des pratiques constructives. Maintenant, quand on est en ville et qu'on construit en bloc et en dur, c'est vrai que c'est difficile de donner une impulsion sur des matériaux plus locaux, ce qui n'est pas impossible, hein, je ne dis pas que c'est impossible. Mais les gens vont reconstruire avec les matériaux...
Petit rappel, au moment du tremblement de terre de 2010, si je ne me trompe pas, les habitations créoles en bois sont celles qui ont le mieux résisté à l'effondrement.
Alors effectivement, quand on allait à Port-au-Prince après le tremblement de terre, on voyait ces gingerbread, notamment dans le quartier de Paco. C'est des maisons traditionnelles en bois qui ont extrêmement bien résisté. Alors, A contrario, dans les quartiers précaires, plus vulnérables aux risques naturels, avec des fois des pratiques constructives moins qualifiées, on va dire, il y a eu beaucoup plus d'effondrements, beaucoup plus de dommages de vies humaines et de destruction. Alors après, ces gingerbread, elles sont quand même très peu nombreuses et elles s'adressent à un autre type de population.
Ouais, qui peut les construire encore aujourd'hui d'ailleurs ? Il faudrait avoir du bois. Or, en Haïti, la forêt a quand même pas mal souffert. Thierry Paco, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des expériences intéressantes pour construire vite et mieux ? Est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est tout à fait possible. Alors, bon, je voudrais
très concrètement, il nous reste très peu de temps. Je voudrais que vous nous parliez de projets précis qui vous semblent intéressants pour l'avenir.
Ben, moi, je vois en France, parce que bon, pour ne pas parler d'Haïti ou de Kinshasa, etc., je vois en France de très nombreuses écoles en paille, comme à Rosny-sous-Bois, par exemple, qu'on peut visiter, et qui sont absolument extraordinaires. La paille est le meilleur isolant contre le froid et le meilleur isolant contre le chaud. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous libère de tout ce qui serait des produits dérivés du plastique.
Ouais, ce sont des briques de paille compressées, mais il faut quand même préciser qu'aujourd'hui c'est encore très coûteux.
Non, ça s'améliore considérablement. Hein. Dans la région où j'habite en ce moment et où je suis, en vous parlant, la Normandie, ça se répand très très bien. Non, on considère qu'une maison en paille, en terre ou en bois, c'est 10-12% de plus qu'une maison en parpaing. Donc, par contre, la question, la difficulté, c'est s'approvisionner dans ces nouveaux matériaux, parce que ce n'est pas ceux qui étaient valorisés par les grandes chaînes de produits de matériaux de construction. Et d'autre part, évidemment, c'est la question des artisans et des savoir-faire. Mais ce que je vois pour tout ce qui est en terre, ça fonctionne surtout en France avec des chantiers participatifs. Et là, c'est aussi une autre manière d'appréhender la chaîne de la construction. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est partie prenante. L'habitant est partie prenante aussi, même si ce n'est pas lui qui auto-construit totalement son habitat.
Sylvain Joachim, on a brièvement parlé de l'accès à l'énergie. Ça reste quand même l'énergie et l'eau potable, hein, et les services d'assainissement. Ça reste aussi la base d'un logement décent. Comment techniquement on peut amener ces services d'assainissement, ces services d'électricité dans des quartiers qui se sont auto-construits, les gens sont déjà installés là. Comment faire et quelles sont les meilleures pistes aujourd'hui?
Alors c'est vrai que c'est un problème complexe. On a des exemples d'appui à l'eau potable dans des quartiers, à Port-au-Prince, de 1995 à 2005, avec un opérateur comme Le Grette, où on finançait l'opérateur qui était la CAMEP, devenue d'INEPA, où on faisait venir l'eau dans les quartiers, et on structurait la société civile autour de la gestion de ce service, de cette ressource. C'est pareil à Kinshasa, sur un projet PILAEP, où là, c'est des forages urbains, où pareil, la société civile, la population, va se structurer autour de ce service, et si on regarde à Port-au-Prince, les quartiers qui étaient déjà structurés socialement, notamment autour de l'eau, sont des quartiers qui ont été plus résilients aux tremblements de terre, qui ont mieux réagi aux tremblements de terre. Donc bien entendu, pour répondre, l'eau est essentielle. On ne peut pas forcément l'amener auprès de chaque maison, mais on peut l'amener dans les quartiers.
Techniquement, au moins à des bornes de fontaines, hein, c'est ça.
Voilà, des bornes de fontaines, exactement. Techniquement, on sait faire. Et après, il y a tout l'appui à la structuration de la société civile, l'accompagnement, le renforcement de capacité pour que ce soit un service qui soit pérenne. Mais on a des beaux exemples en Haïti, justement, des comités d'eau, des comités de l'eau, ou à Kinshasa, dans les périphéries, dans les communes périphériques de l'agglomération.
Thierry Paco, je repose la question que j'ai posée au début de l'émission. Finalement, sommes-nous trop nombreux pour accéder à un habitat décent ? Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une question de démographie, alors... comment faire pour qu'il y ait une meilleure répartition de cet habitat décent ?
Ben je crois que c'est vraiment le rapport entre chaque être humain et son territoire. Et donc là, tant qu'on favorise quand même, c'est quand même les grandes mesures des institutions internationales, ça va quand même dans le sens de la mégalopole. Et je crois que la mégalopole est quand même prédatrice des terres arables, etc. Bon, donc plus on serait soucieux de ce rapport précis, culturel, disons-le comme ça, de chaque habitant avec son territoire qui n'est pas forcément le lieu où il est né, hein. On peut changer de territoire, bien sûr, durant sa vie. Je crois que c'est cet ancrage-là qui est important. Et donc, du coup, il y a des tas de petits villages qui ont périclité, qui se sont semaillés, etc., qu'il faut réactiver. Et donc, c'est là où le rééquilibrage, il passe par l'ajustement des politiques d'État pour que les emplois ne soient pas exclusivement excessivement concentré dans la capitale ou la capitale économique du pays.
Sylvain Joachim, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il faut vraiment en finir avec les mégalopoles pour un habitat plus décent ?
Alors, en finir, c'est difficile à dire, mais par contre, on peut intervenir dans des villes intermédiaires. C'est ce qu'on fait au Cameroun, c'est ce qu'on fait au Bénin, c'est ce qu'on fait à Madagascar pour participer au rééquilibrage territorial et que la croissance démographique ne soit pas orientée que sur la capitale, mais aussi sur ces villes intermédiaires. À Madagascar, c'est les villes de Diego Suarez, de Tuléar ou de Fianarantsoa, où on donne un appui financier, un appui technique pour justement contrebalancer un petit peu le poids démographique que peut avoir la capitale, avec du renforcement de capacité, bien entendu, des collectivités. Mais c'est un travail, effectivement, de long terme. Mais c'est nécessaire, puisque la croissance démographique, aujourd'hui, elle va se faire majoritairement vers ces villes secondaires. En tout cas, on peut encore faire de la planification. On peut encore agir très en amont avant, effectivement, d'avoir le développement de ces quartiers précaires.
Merci à vous tous, Sylvain Joachim de l'AFD, Agence française de développement. Merci à vous, Thierry Paco. Vous avez publié « Mesures et démesures des villes » aux éditions CNRS. On se quitte avec Ibrahim Maalouf, à retrouver d'ailleurs sur l'antenne de RFI, extrait de son dernier album, Todo el Mundo, une chanson très 8 milliards de voisins. Novo son, funk, dança, chama toda a vizinhança, baixo bum 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 bum, ano inteiro no balé. É popular, é natural, a vibe tá no ponto, vem que vai que ser legal, vem que vai que ser legal, vem que vai que ser legal. Quero te convidar, vem somar, vem cá curtir. A vida é muito curta, quero me divertir. Vamos passar o ano todo, todo no verão. Música é cura, salva o seu coração. É só você relaxar, só balançar. Toque, 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 deixa a gente entrar. Vem no pão pararão, vem pra cá zoar. Essa noite pra sair, a lua é toda nossa, vem cá se divertir. Quero passar o ano todo, todo no verão. Música é pura, salva o seu coração. É só você relaxar, só balançar. Top, 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 deixa a gente entrar. Vem no pampararão, vem pra cá zoar. Vem aqui com a gente, ó. Todo mundo se reúne. Ó, 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 passinho, ó, ó, passinho, ó. De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Derrière ce micro, il y a toute une équipe qui prépare les émissions et en particulier cette semaine spéciale. Damien Roucou, Zainaba Diallo, Divine Berthoud, Romain Dubrac, Laurie Plisson. Nos émissions sont à réécouter bien sûr en podcast. Et demain, 8 milliards de voisins, suite de notre semaine spéciale, sommes-nous trop nombreux pour manger à notre faim ? En 2021, 828 millions de personnes ont souffert de la faim dans le monde. C'est un chiffre en augmentation et qui pose la question de la production agricole et du commerce mondial des denrées alimentaires.